Lundi 2 décembre, salut tout le monde, bon début de semaine et bienvenue à cette nouvelle sortie de zone. Ici Mario Langlois, flanqué de Jérémy Filosa et Guillaume Lefrançois. Salut les gars.
Salut.
Salut Mario.
J'ai l'air de bonne humeur de même là, ce début de semaine, mais je pense que comme moi, vous pouvez sentir que le vent souffle dans la direction peut-être contraire au bonheur, si le bonheur s'appuie sur les succès du Canadien de Montréal.
Il y a eu plusieurs arrêts à mon bureau ce matin, les gens des ventes, les gens de la météo, les gens de la circulation, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le Canadien.
Honnêtement, j'étais à Brossard ce matin, puis à l'entraînement, on est lundi matin, bien sûr. Là. Et bon, sur la glace, c'était animé. Là. C'était un court entraînement, mais c'était quand même animé. Mais dans le vestiaire, on a parlé à Brendan Gallagher. Puis bon, il avait quand même trouvé quand même le moyen là, de rigoler un petit peu au début, pas démissionner, livrer un message tout de même positif, là, même si les résultats sont pas là. Donc,
fais-tu beaucoup à tes feelings? Je te demande la même question, Jérémy, parce que toi, tu vois, dans les après-matchs, Guillaume, tu as une couverture presque au quotidien en alternance avec un collègue de la presse. Ça fait longtemps que je ne suis plus dans le vestiaire. Je faisais ce que Jérémy a fait. Je peux prendre le pouls de d'autres façons, mais avez-vous le feeling, sentez-vous qu'on a le feeling du vestiaire dans les petites fenêtres d'ouverture qu'on a pour y pénétrer, pour parler avec les gars, puis qu'est-ce que vous ressentez?
Ça dépend desquels. Il y a des joueurs qui sont pas capables de mentir, puis il y en a d'autres qui sont quand même capables de prendre ce qu'on peut dire le poker face. Là.
Oui, oui.
Donc, c'était Max Pacioretty, dans le temps, par exemple, lui, était capable
de
mentir.
Il était pas pris là-dedans, lui,
oui. Non, il était au contraire, il était incapable de mentir. Il était
très... incapable, tu trouves? Il nous a menti pendant plusieurs mois. Il demandait une transaction.
Oui, mais ça,
mais sur le reste,
c'est un autre dossier. Okay. Mais disons qu'en général, il était très, très authentique, je trouvais, dans ses... dans ses sentiments, dans ses états d'âme. Donc c'est ça, il y a de ces joueurs là qui sont pas, je pense que Philippe Dano fait aussi partie de ces gars-là qui sont pas capables de mentir. Et puis il y en a d'autres justement, je dis pas qu'ils mentent, mais tu sais, je pense que Brendan Gallagher par exemple, c'est pour ça qu'on le voit tout le temps dans les médias, c'est que même si ça va mal, il est capable de dégager une image quand même de gars en contrôle. Il va parler moins fort, il va parler à voix basse après les défaites, là c'est sûr qu'on va sentir la déception, mais c'est pas non plus, il va jamais faire non plus sentir qu'il n'est pas en contrôle.
On fait quoi, là, Jérémy, là-dessus? Peut-être, t'étais dans le vestiaire après la défaite contre Philadelphie en prolongation. Il y avait une mini consolation du fait qu'on avait obtenu un point en pensant que peut-être que le lendemain, on allait en chercher deux. C'est pas ça que c'était, que c'est passé, là.
Écoute, dans les dernières tempêtes où ça a explosé, là, où on a mis soit le directeur général dehors ou l'entraîneur, je l'ai presque toujours senti dans le vestiaire après un match. Au bout de un, deux ou trois matchs, t'entends les échos des joueurs puis tu te dis ça peut pas continuer de même. Il y a quelque chose qui va se passer. Et présentement, je suis pas rendu là. Je peux pas dire que de ce que j'entends des joueurs du Canadien présentement, j'ai un sentiment comme il y en a qui ont commencé à lancer sur les médias sociaux, on met le coach dehors puis moi je l'ai pas ce sentiment là. Je l'ai pas ce feeling là au moment où on se parle que les joueurs ont abandonné sur la saison ou même sur l'entraîneur.
Puis tu sais, je pense que c'est la semaine dernière qu'Alexandre Pratt parlait ici de que les débuts de match du Canadien sont généralement bons et que ça c'est un signe justement d'une équipe qui est bien préparé et d'une équipe qui n'a pas abandonné son entraîneur. Puis ben regardez encore dimanche à Boston. Ben c'est ça, les deux soirs. Dimanche à Boston, Armia qui marque après deux minutes. Et puis, Canadien qui a joué deux très, très bonnes périodes. C'était une équipe qui était prête, qui était une équipe qui a compétitionné.
Le match qu'on a tenté de jouer à Boston hier, là, malheureusement, ça a duré deux périodes. Parce que si on réussissait à avoir, mettons, aller en prolongation d'un match de 2-1, tu perds. Même si tu perds à Boston, c'est quand même le meilleur club dans la liste. Là, en tout cas, un des meilleurs clubs de la Ligue. Tu sais, au moins, tu renoues avec une empreinte qui peut te garantir d'autres victoires, d'être compétitif, une empreinte plus défensive. Puis tu vois qu'offensivement, ça les a un peu désarçonnés parce que là, faut que tu te ressentes défensivement. Tu vas sacrifier un peu d'offensive. Mais là, je me disais, OK, si on peut se rendre en troisième, on est peut-être en train de créer, là, quelque chose. Oh, puis je dis pas qu'on l'a pas créé en partie, parce que c'est sûr que de l'intérieur...
Ils l'ont créé pendant 45 minutes. Puis en plus, très très froidement, c'est une bête erreur de recrue d'Olofsson qui a ouvert la porte, dans le fond.
De laisser un gars derrière lui, de laisser partir de reculons,
David
Pasternak
que tu dois pas laisser aller. Donc, puis là, ben après ça, la chaîne a débarqué.
Quel lancer pareil, hein? C'est incroyable. La garnade qu'il a. Pasternak, il est impressionnant. On le voit souvent tirer de son poste en avantage numérique. Ce coup-là, ben, il s'est libéré seul. Il a dégainé sur le fly, sur son air d'aller. C'était vraiment impressionnant.
La force et la précision.
Un gardien peut pas faire grand-chose là-dessus. La seule chose que je remarque, c'est que je trouve que, puis encore là, c'est facile à dire, là, de mon poste, puis c'est un match que je regardais à la télévision, j'ai l'impression que Carey est toujours peut-être un pouce trop à gauche pour protéger l'autre. Mais c'est des tirs parfaits. Ce sont des tirs parfaits.
Quand ça touche l'intérieur du poteau comme ça.
Je veux pas l'abrier, c'est cool. Au fer, on disait que c'était un Rainier.
Je dirais que ça pine, mais écoute, moi, j'ai trouvé que les deux derniers matchs ont été quand même... C'était pas du tout ce qu'on avait vu dans les 6 matchs précédents dans les défaites.
Oui.
Ça s'est beaucoup mieux passé, plus structuré, mieux défensivement. Oui. Ils ont joué un petit peu de malchance contre Philadelphie. Ils auraient pu gagner ce match-là. Puis contre les Browns, une des meilleures équipes de la Ligue, puis surtout une des meilleures défensives de la Ligue, t'as joué égal à égal jusqu'à mi-chemin en troisième période ou à peu près. C'est sûr que les signes sont positifs, mais ça veut pas dire nécessairement que demain puis après-demain, ben on retombera pas sur nos mauvaises habitudes de la semaine dernière.
Et j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis là, pour avoir eu des discussions toute la fin de semaine avec des passionnés de hockey comme nous autres, entre nous autres, puis c'est pas parce que tu te remets à jouer bien puis à respecter l'enseignement qui t'est prodigué que là tu vas gagner le jour que tu fais ça là. Et c'est une ligue compétitive là.
Ben oui,
on travaille là, on va gagner tout ça. Non, c'est pas de même que ça marche.
Mais je suis convaincu que...
Mais oui, ce sont les éléments auxquels tu peux t'accrocher pour dire OK, on s'en va du bon bord, mais la récompense est pas toujours immédiate.
C'est parce que la question qu'on commence à se poser, tu sais, Claude Julien disait jeudi, c'est pas ce qu'on enseigne. C'est pas ça qu'on est en train d'enseigner.
Ben
OK. Si c'est pas le cas, ben là, faut que tu te poses la question, est-ce que les joueurs qu'on a sur la glace sont suffisamment bons pour mettre en application ce qu'on leur enseigne? Parce que c'est ça qu'on indique. Et le fait que samedi et dimanche, tu as joué des meilleurs matchs défensivement, au moins te permet de croire que les gars que tu as sont capables de le faire. Puis ça, c'est important pour le Canadien. Puis je suis d'accord avec Claude Julien qui dit, si on joue comme on a joué samedi et dimanche, ben dans la majorité des matchs, on va avoir des résultats plus positifs.
Ben c'est ça. Puis là où on revient à ce que tu dis, à savoir s'il y a les joueurs capables d'exécuter ce qu'ils enseignent, ben c'est quand tu regardes les petits jeux sur lesquels ça s'est joué. Puis là, je parlais de Gustav Olofsson, par exemple. Olofsson, on s'entend que c'est un joueur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale depuis un an et demi.
Ouais.
Là, il se retrouve sur la route à Boston en troisième période, dans une équipe qui a de la profondeur. Il n'est pas placé dans cette situation-là. Dans une équipe qui a de la profondeur, ce gars-là, il est soit dans les gradins, soit dans la Ligue américaine.
Mais
Nick Cousins, qui prend sa pénalité en zone offensive. Ouais. Nick Cousins, à l'heure actuelle, joue au sein du deuxième trio dans un rôle qui est beaucoup trop demandant pour ce qu'il est comme joueur. Donc là, c'est là qu'on revient à, ben c'est ça, oui, il y a ce que le Canadien enseigne, mais après ça, il y a le personnel qui l'exécute, puis il y a certains de ces joueurs-là qui sont placés dans des situations... Bon.
Pourquoi on a cru, nous autres, parce qu'on peut tous avoir de là une gang de nonos, là, d'avoir... En tout cas, moi, je suis sûr qu'ils ont pensé que le Canadien pouvait se classer en 8e place dans l'Est cette année, en luttant très fort, en appliquant un système rigoureux. Puis pourquoi j'ai pensé ça? Mais parce que le Canadien était quand même à quelques points de cogner à la porte des séries l'an passé et qu'il réussissait à se regrouper, il réussissait à rebondir quand il subissait quelques défaites. Puis défensivement, c'était pas si mal. Là, j'ai dit, je vais retourner voir les chiffres un peu. On l'a fait, les gars, avant d'enregistrer le balado. 13e en défensive l'an passé, le Canadien, 2,88 buts alloués. Là, actuellement, on n'est pas là pantoute. Là. Défensivement, là, on est parmi les pires équipes de la Ligue. On est 30e. Le désavantage numérique est horrible. Et je remarque aussi dans les éléments qui ont fait en sorte qu'on avait plus de victoires. Puis là, je dis pas de le ramener parce que il y a eu un déclin dans son cas, là, passé le trois quarts de la saison, peut-être avant. Niemi avait remporté quelques victoires à cette date-ci l'an passé, là. Donc, même si c'était pas le bon Dieu, ben, Price a pu sauter un match ou deux, a pu se remettre en condition. Même, vous vous souvenez, on avait retiré Price de la circulation.
Oui,
et on avait gagné, mais je me souviens pas par cœur de l'affiche, mais ça avait pas été la catastrophe et Nîmes avait gagné des matchs. Dans les autres éléments, j'en reparle pas parce que moi, ma ligne là-dessus, c'est pas parce que c'est Bobby Orr, mais Jordy Benn, là, je veux dire, c'est peut-être qu'on a pensé que c'était un morceau quelconque, un doggy bag qu'on allait remplacer facilement, mais il amenait une dimension que moi, j'ai pas vu un gars remplacer à gauche cette année, là.
Moi, là-dessus, par contre, je suis pas d'accord avec toi,
parce que je
pense que Ben Chiarot, qui le remplace de façon... Il y a eu ses mauvais matchs, mais Jordy Benn aussi avait des mauvais matchs, là. Ben, en général, je pense qu'il est capable d'apporter plus. Je pense pas que Jordy Benn aurait été capable de jouer 29 minutes contre les Bruins comme ce que Ben Chiarot a fait cette fin de semaine. Donc ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, si on veut se pencher sur les facteurs qui expliquent les problèmes en défense.
Chiarot puis Ben ensemble, t'aurais-tu pris ça? Ou ça aurait été comme...
Oui, c'est sûr. Mais c'est parce que
fâche quand on voit qu'on paye un gars 4,5 millions pour dormir à Laval puis qu'on n'était pas capable d'étendre une année de plus à 1,1 un gars que t'aurais pu envoyer à Laval dans 2 ans si t'étais prêt avec, que c'est là-dessus qu'on fait de la comptabilité créative, qu'on a l'air d'un bon gestionnaire.
Mais le facteur qu'il faut pas oublier, puis qui trouve change beaucoup les plans, c'est Brad Kulak. Brad Kulak, ouais, l'an passé, a joué 60 matchs comme un vrai défenseur de Ligue nationale.
Mais,
c'est un bon point.
Je trouve qu'il y a plusieurs défenseurs du Canadien qui sont peut-être pas des défenseurs qui jouent du hockey robuste, mais des fois, là, ça se joue sur une fraction. Une rondelle, une passe qui te passe entre les patins. Quand tu joues du bout du bâton, puis tu es juste capable de faire dévier la rondelle pour qu'elle se retrouve dans la mèche en haut et non sur la palette d'un coéquipier. Des petites affaires de rien qui viennent souvent avec le temps et l'habitude et la pratique. Et le Canadien se fait souvent jouer des tours par des défenseurs adverses sur des jeux qui semblent anodins, mais dans leur territoire défensif, c'est plus difficile.
2 millions par année pour Jordy Benn sur 2 ans. Le Canadien avait la même offre. T'sais, on a entendu le même pitch sur Radulov. On avait la même offre. Mais tu sais, il y a toujours la même offre. Mais tu sais, dans le fond, tu voulais pas le garder parce que tu as pas fait l'offre pour le garder. T'sais, arrête de m'endormir. Là.
C'est ça qui est ça. Mais je te dis pas
que c'était une mauvaise décision sur le coup de dire, ah, Kulak a été bon. On va remplacer par Chiarot. Mais Chiarot, c'est correct. Mais l'autre, tu savais ce qu'il pouvait te donner. Puis encore là, c'était pas Bobby Orr.
Ouais. Mais Chiarot t'en donne plus.
Il y a une chose que Claude Julien a dit ce matin.
Tu trouves que Chiarot t'en donne plus?
Que Ben? Oh, absolument.
Ben ouais,
aucun
je pense que oui, moi aussi. Mais ce matin, le Claude Julien a noté les noms de jeunes joueurs dans son équipe qui, sans dire que c'est de leur faute, mais il a dit, on leur fait confiance, on leur donne des minutes. Parfois, ça nous coûte, malheureusement, sur la patinoire, mais je suis certain qu'à long terme, ça va payer. Tu sais, Jordy Benn, on avait fait un peu le tour du
jardin. Ce sont les mots de Claude, ça, ce que tu viens de dire?
Exactement.
Là? Bon, mais là, il nous ramène de façon, parce qu'il n'y a pas personne qui le dit franchement dans cette organisation-là. Puis c'est ça, la réalité, là. Ils n'ont pas un club pour, à part de nous laisser croire qu'on lutte pour une huitième ou sept, en tout cas huitième place, c'est d'être patient.
Exact.
Si on repêchait bon, Jérémy, t'es-tu sûr qu'on repêchait bon?
Ben,
parce que le gars qui repêche, t'es-tu depuis quand qu'il est là, lui?
Ouais.
Il est là depuis 2002. Il y en a eu 8 coachs passés. C'est un champion, ça.
J'ai plus de difficultés avec la manière dont on les apporte. T'sais, mon opinion à moi, c'est qu'un joueur de 18 ans, par exemple, je vais pas revenir encore sur Kotkaniemi, mais si t'as 18 ans, à moins d'être Connor McDavid, tu joues pas dans la Ligue nationale. T'as beau avoir connu un bon camp d'entraînement pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, tu joues pas dans la Ligue nationale. Tu t'en vas en bas, tu fais tes classes, puis tu vas monter tranquillement, pas vite. Il y a pas un joueur qui a pas bénéficié de jouer 2 bonnes années dans la Ligue américaine ou quoi que ce soit avant de s'amener dans la Ligue nationale. Et je pense que le Canadien paye du fait que, dans certains cas, on les amène, on s'attend à beaucoup d'eux, on veut peut-être faire plaisir aux partisans, puis ça nuit finalement au développement de ces jeunes-là.
Ça revient à ce qu'on disait tantôt sur les joueurs qui jouent des rôles trop élevés pour eux. C'est que quand t'as un problème de profondeur, comme ce qu'il y avait au camp l'an dernier au camp, Kotkaniemi, oui, il y avait un bon camp, mais aussi, c'est qu'il n'y avait aucun troisième centre digne de ce nom.
Ça prend des gars pour boucher les trous en attendant.
Sauf que quand c'est ton joueur de 18 ans qui bouche les trous en attendant,
ça n'a
pas été catastrophique comme première année, ça a été correct. Mais là, cette année, on se rend compte et on se dit...
Tu prends des décisions de même quand tu es d'une phase de reconstruction.
Oui, c'est ça.
C'est ça qu'ils font. Là. Ça fait 3 ans qu'ils sont là-dedans. Là. 3 ans et demi qu'ils sont dans la reconstruction... À moitié avoué.
À moitié. Moitié de reconstruction.
Jeff Molson qui dit on va être bon dans 3-8 ans. Tu sais, il n'y a pas eu de lettre comme les Rangers, puis il n'y a pas un plan peut-être aussi clair que les Sénateurs, mais c'est la même affaire. Fait que, êtes-vous en colère? Êtes-vous résigné? Êtes-vous en mode patient? Parce que c'est sûr que c'est un processus qui va connaître des ratés. Là, tu peux pas.
Moi, je suis résigné. Puis c'est parce que pour moi le plan, il est, excusez l'expression anglophone, flawed depuis le début. Dans mon opinion, et
qu'est-ce
ça recule il y a 3-4 ans. Ben, moi, j'aime pas l'idée d'essayer de bâtir un club pour essayer de gagner une coupe où ton noyau est scindé en deux. J'aime pas cette philosophie-là. J'aime mieux des philosophies comme ont appliqué les Blackhawks, les Pingouins ou quoi que ce soit, où t'amènes ton noyau de joueurs qui a approximativement le même âge à 2 ou 3 années près. C'est des gars qui gagnent pas beaucoup d'argent au début, qui se développent. T'as de la place sur ta masse, t'amènes une coupe de vétérans pour essayer de gagner une coupe. Mais là, présentement, t'as décidé de te départir de 2 éléments qui étaient dans l'âge de ton noyau de groupe en Pacioretty et Subban. Et là, tu te retrouves avec tes 2 meilleurs joueurs qui sont plus... Tu sais, qu'eux veulent gagner vite, là, maintenant.
Ouais, parce
alors que t'as des jeunes qui sont pas prêts tout de suite. Ça va leur prendre 2 et 3 ans, puis moi, je suis prêt à leur donner ce temps-là. Mais quand eux vont être prêts, où seront nos 2 gars qui...
Price et Weber,
qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui, eux, s'en vont vers la descente, vers le bas. Donc, le système, pour moi, il est périmé depuis le début. Donc, je suis un petit peu...
Les Saint-Louis sont la preuve que le contraire de ce que tu penses peut amener au succès. Ça, et les Bruins peut. Aussi. Là, les deux finalistes de la Coupe l'an passé n'ont pas gagné à la loterie, n'ont pas tanké. Ils sont bons année après année. Puis ce qui est plus frustrant, puis c'est pas vraiment le fond de ma pensée, mais quand j'y repense, ça me met un peu en colère parce que je veux pas radoter, puis je l'ai déjà dit en ondes, puis je me suis déjà un petit peu emporté avec ça, mais de constater que le Canadien avait dépassé les Bruins dans la courbe. Et les Bruins de Boston ont pris acte de ça. Ils se sont dit, le Canadien nous a battu avec la vitesse. Vous en souvenez-vous
ça,
là? Okay? Le Canadien nous a battu avec la vitesse. Lucic est parti. Thornton est parti.
Mais Chara
est resté. Non, mais Chara, Krejci, Bergeron, c'est un autre groupe, ça, là. Et là, ils ont ajouté McAvoy, ils ont ajouté Krug qui est dans le milieu. Ils ont ajouté Pastrnak, un choix de fin de première ronde. Il y en a des bons choix après 15. Tu savais ça, toi, Jérémy? Il y en a qui ne savent pas. Il y en a des bons choix après 15.
Jake DeBrusk.
Jake DeBrusk et bon compagnie. Joueur, fait que, alors, puis là, ils sont revenus, puis ils ont battu le Canadien à leur propre recette. Puis nous autres, on est où? On a-tu progressé? Qu'est-ce qui a progressé? Je suis tout oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous sentez qui progresse? Parce que le bouclier là sur lequel ils surfent cette direction-là, c'est de dire l'avenir va être bon, on a des bons jeunes. Puis là, il y a des grands experts dans la ligue qui ont dit qu'on avait un des meilleurs pools de jeunes de la Ligue nationale. Mais sais-tu quoi? Ça se peut qu'il n'y ait d'autres équipes qui n'aient des meilleurs jeunes que nous autres. On va le voir, mais il n'y a pas de preuve de ça. Mario, c'est comme Romanov, là, le bouton à quatre trous qu'on va ramener de Russie. Là. Écoute, non, mais il joue d'une ligue où les gars qui dominent, je veux dire, Semin est un bon marqueur. Alexander Semin est un bon marqueur en KHL. Fait que là, Romanov, tu sais, je ne dis pas que c'est un bon joueur de hockey, mais il n'y a pas de sauveur là, dans une situation.
On connaît les gars qui s'en viennent chez le Canadien, mais la réalité, c'est qu'il y a 30 autres équipes qui ont tous deux ou trois bons jeunes joueurs qui vont éclore éventuellement. Fait que, on n'est pas meilleur ou pire que les autres.
Mais c'est ça, chaque équipe, je pense que c'est un espèce de phénomène naturel, mais chaque équipe, puis les partisans de chaque équipe vont toujours se sentir qu'ils ont un bon groupe de jeunes. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à couvrir le Canadien, tout le monde disait, ça fait pas si longtemps que ça, mais tout le monde disait, regardez ça, la relève qui s'en vient en défense, Beaulieu, Tenordi, puis là, il y a même Patterson qu'on n'attendait pas qui se développe. Puis là, tu voyais ça, puis tu dis, c'est vrai. Puis là, tu les regardes aller, puis ils dominent dans leur niveau respectif, dans les ligues juniors. Ensuite de ça, ça va bien dans la Ligue américaine.
Oui, mais il n'y a rien qui garantit.
Mais après ça, il n'y a pas de garantie. Puis là, tu arrives dans la Ligue nationale, puis c'est plus compliqué que prévu. Donc, je pense que c'est un sentiment naturel de penser que les espoirs que tu as dans ta cour et que tu vois aller,
mais pour revenir à ton point, Mario, les Bruins l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont fait leur transition sur, mettons, une période de 3-4 ans. Donc, OK, bon, t'en as un qui part, t'en as un qui arrive. C'est correct. Si tu prends ton noyau, puis tu dis, le plus vieillissant, on le laisse partir, puis on fait rentrer un jeune, ça va. Mais quand tu décides de scinder le groupe en deux, je pense que ça fonctionne pas.
Qu'est-ce que tu veux dire par scinder le groupe en deux? Juste pour être bien sûr de te comprendre, Jérémy.
Moi, j'aime pas le fait que nos deux meilleurs joueurs et les joueurs qui sont nos deux étoiles, mais qui ont aussi un peu plus d'âge que les autres, sont Weber et sont Price. C'est-à-dire que ça va prendre un certain temps avant que les Suzuki, les Poehling, les Kotkaniemi deviennent assez bons pour te donner une chance de gagner la coupe, alors que les autres, rendus là, ne pourront peut-être plus t'aider comme tu voudrais qu'ils t'aident.
C'est parce que ce que tu dis, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, c'est que le repêchage n'a rien donné pendant ces années-là. Puis t'as un trou dans le bang. Puis, tu sais, Marc Bergevin en a fait des pirouettes pour combler ces trous-là. Dano est un des très bons exemples de pirouettes qu'il a fait positives.
Armia.
Drouin a donné Sergachev. Mais
c'en est une pirouette, justement, parce que là, il y avait Sergachev, il y avait un jeune de 19 ans qui est changé contre un jeune de 23. Il a comme acheté 3 ans.
J'acquiesce à ta pensée. Effectivement, il a nourri le milieu de son trou de bain.
C'est ça, qu'il n'a pas été capable de nourrir par le repêchage.
Puis c'est pour ça que c'était un petit peu fâchant de constater que il y a bien des chaises, il y a bien des têtes qui ont tourné, mais le gars qui repêche, il est là, ça va faire 20 ans bientôt. Je sais pas si on va faire une plaque. Mais je veux même pas m'en prendre à lui, parce que dans le fond, qu'est-ce que tu veux? C'est eux autres qui consentent à ça. Mais c'est quelqu'un qui essaie de me faire croire que cette équipe-là a bien repêché. Puis, Kotkaniemi, j'avoue que là, les 2-3 derniers matchs, je vois des signes positifs. Mais me dire que jusque-là, cette année, tu sais, j'étais obligé de te demander si c'est le bon choix cette année-là. Puis tant que je serais pas sûr qu'ils ont fait le bon choix, j'aurais pas plus confiance dans le grand Manitou qui supervise tout le recrutement.
Ouais, écoute, il y a toute une histoire là-dedans. Tu sais, t'as des gars comme McDonough et Sergachev que le Canadien a quand même repêché, mais qui ont finalement été échangés.
C'est pas de la faute à Timmins, rendu
là. Donc, il y a une grosse image là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui ont des parts de responsabilité.
Mais Jérémy, quand tu reparles encore d'un gars repêché en 2008 pour défendre notre gars. On s'entend-tu qu'on manque de cartouches pour défendre notre gars?
Ah oh, ouais, mais... non, je suis d'accord avec toi. Mais écoute, moi, j'ai trouvé qu'on avait quand même bâti un beau noyau intéressant qu'on avait il y a 4-5 ans. Là, on a un Carey Price qui se blesse. On fait pas les séries. Pis on panique, pis on pitch un peu partout, bon, il faut faire quelque chose. Au lieu de dire, ben, on n'avait pas notre gardien numéro un, essayons de revenir avec le même noyau, voir ce que ça peut donner. Puis, en tout cas, après ça, ça a déboulé ensuite de ça. Je sais pas comment le Canadien, sur le long terme, va être capable de s'en remettre. Moi, je pense qu'on est plus proche des départs éventuels de Weber et Price qu'on est d'une coupe. En tout cas, c'est ce que je pense.
Donc, tu ne vois pas aller au bout de leur contrat. Le seul problème que je vois, puis je vous demande votre avis là-dessus, c'est que vous voyez les clubs qui ont repêché parmi les premières équipes pendant de nombreuses années, là, Toronto et Edmonton. C'était quoi leur problème? Il n'y avait pas de colonne vertébrale, il n'y avait pas de vétérans. Mais Edmonton, de vétérans qui ont magasiné pendant tant d'années. Fait que Weber, ça peut être tentant. Quelqu'un t'offre de quoi de bien intéressant. Je laisse aller Weber, mais là, j'ai plus de poteau dans la chambre.
Ben, on parlait des Bruins tantôt, puis c'est ça, je trouve, qui fait le succès des Bruins, c'est que, oui, ils ont raté les saisons. Les séries deux années là, sous Claude Julien, mais il ratait à 90 points. Il ratait pas à 67 points. Donc, on n'est pas non plus sombré dans une culture perdante. Et on a gardé, justement, Chara, Krejci, Bergeron, on a gardé ces joueurs-là qui, je suis sûr qu'une partie des partisans des Bruins se disaient, ben là, on est aussi bien de tout démolir puis d'échanger les vétérans puis de repartir avec des hauts choix au repêchage. Mais non, ils ont gardé leur noyau. Puis ce qui fait en sorte que quand, justement, tous les joueurs qu'on a mis tantôt, les Krug, les McAvoy, les Jake DeBrusk, Gretzlick, tous ces joueurs-là qui vont former, dans le fond, l'avenir des Bruins, ben quand ils sont arrivés dans un club où ils étaient bien entourés, où il y avait des vétérans qui savent ce qu'ils font, puis pas juste qui savent ce qu'ils font, mais qui sont encore capables de jouer en plus. Alors, les Bruins ont très, très bien réussi. Dans le fond, je pense que Marc Bergevin aimerait réussir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le reset on the fly.
Parce qu'ils ont repêché, Guillaume.
Mais c'est ça, parce qu'ils ont bien repêché.
Mais là, peut-être que... Puis je veux Charlie pas vivre McAvoy, dans le passé. Dans le présent, là, tu sais, mettons, on joue le jeu, là. Tu ferais quoi si tu avais l'occasion d'être consultant puis que quelqu'un te demandait ton avis? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire avec mon équipe?
Écoute, moi, la première chose que je voudrais leur dire, là, que je leur dirais, là, si quelqu'un venait me voir, je dirais, Jeff, l'année passée, là, tu t'es mis 7 millions dans les poches. Il y avait 7 millions de la masse salariale qui était disponible qui n'a pas été dépensée. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, où on sait qu'une victoire peut faire toute la différence, où on sait qu'un petit edge peut faire la différence, quand tu dis que tu es à une victoire de faire les playoffs l'année passée, puis que tu dors avec 7 millions dans tes poches à la fin de l'année, je te dis pas que l'acquisition d'un joueur ou de deux à la date limite, aurait assuré une place en série. Mais tabarouette, donne-toi toutes les maudites chances. Dans cette ligue-là, là, les avantages, là, t'en as pas beaucoup. C'est très difficile d'aller en chercher. T'en as un qui est là. Présentement, le Canadien a 5,7 millions de dollars de disponibles sur la masse salariale. C'est la sixième équipe qui a le plus de place. C'est un asset, ça. Il faut
mais
que tu t'en
si
serves.
Mais si tu trouves pas personne sur qui le dépenser, Jérémy.
Je comprends, mais c'est ça ta job. C'est pour ça que t'es payé 5 millions par année, c'est pour trouver une solution à ce problème-là. Parce qu'il y en a des équipes...
À moins que tu sois très conscient comme président, parce que tu jases avec ton GM, que t'es dans une reconstruction, que tu vas faire jouer des recrues, puis que tu vas économiser 7 millions sur la masse parce que t'en feras pas 7-8 d'insérie, puis finalement, le bilan est le même.
Si c'est ça, Mario, on a un gros problème. Ils l'admettront jamais parce que...
Non, mais quelqu'un qui prend quelqu'un pour des nonos.
Je vais revenir aux propos de Marc Bergevin au point de presse de l'année passée. À la date limite des transactions, quand il a dit trois fois « Pourquoi vous n'avez pas bougé? » Parce que le prix à payer était trop élevé. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase-là?
Absolument. Okay.
C'est parce que votre business est basé sur le prix à payer, il est trop élevé. Tout ce que vous vendez dans votre building, le prix à payer, il est trop élevé. Fait que si tout le monde dans votre building disait « Le prix à payer est trop élevé », il n'y aurait personne dans le building. Donc, si tu veux charger à tes partisans comme une des trois équipes qui est la plus dispendieuse dans la ligue, maudite affaire, faut que t'accotes aux côtés du plafond salarial. Parce que si tu dépenses jusqu'à la dernière scène, en tant que propriétaire, tu peux dire « On a tout fait. On a dépensé jusqu'à la dernière scène qu'on avait pour faire les playoffs. Ça a pas marché.
Mais là, c'est parce quand que tu dis... ce que tu dépenses, c'est pas la garantie que t'as un bon club.
Non,
là, parce
c'est
que
pas
les
Leafs
de Toronto, là, ils reviennent au plafond. Ça fait des années qu'ils sont à plusieurs millions du plafond parce qu'il y avait des jeunes qui leur coûtaient pas cher pour reprendre l'idée que t'avais. Quand ça te coûte 72 millions, que t'es en reconstruction, t'as un méchant problème. À mon avis, Jérémy, tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que c'est dans le fond, opinion. C'est quoi? Mais on jase, puis je la respecte. Mais là, si je te dis juste que je suis pas d'accord
si
avec ça.
Si t'es en reconstruction, puis tu l'avoues. Puis tu dis, nous, on est une équipe en reconstruction. On pitchera pas des millions à droite pour à gauche pour aller chercher des gars qui sont des vétérans en fin de carrière. Ça, on peut le comprendre. Il y a personne qui va disputer ça. On veut pas que l'équipe dépense stupidement. Mais là, on n'est pas là, là. On essaye de faire les séries, là.
Toi, ben, Guillaume, c'est ça. Je pense que tout est dans le message, justement. Puis c'est là que les.
On
c'est
va
là
se rejoindre,
que,
je pense.
C'est là que les Rangers, ils gagnent beaucoup dans ce qu'ils ont fait quand ils ont envoyé la fameuse lettre à leurs abonnés de saison, disant, regardez, on reconstruit, les années à venir vont être dures, mais on l'accepte, puis ça va être ça. Puis même que si tu te mets du point de vue des partisans des Rangers, tu dis bon, ben regarde, ils nous ont envoyé cette lettre-là, puis là, ben l'été dernier, vont chercher Trouba, vont chercher Panarin.
Ils sont pas très conséquents.
Ben c'est ça, ou du moins, en tout cas, on va essayer d'accélérer la reconstruction. Je trouve que dans la façon de présenter les choses, mm-hmm. les Rangers ont trouvé une belle façon. Ils ont baissé les attentes au maximum. Et puis là, ben, ils sont arrivés l'été dernier, ont essayé de faire un push. On va voir ce que ça va donner. Disons qu'ils sont pas sortis du bois pour autant, mais
dans une période où t'avoues pas que t'es en reconstruction, puis ton plan c'est de faire les séries, parce que c'est le Canadien qui nous dit année après année, ben c'est pas la même affaire. Je veux dire, je trouve que c'est un manque de respect que de dire au public le prix à payer était trop élevé. Parce que c'est ça qu'on demande de nos partisans, de payer un prix trop élevé, soir après soir.
C'est une analogie intéressante que celle-là. Ça, je suis pas en désaccord avec celle-là. C'est quand tu grattes autour que là, je veux dire, de dépenser pour dépenser.
Je suis d'accord avec toi.
Là-dessus, tu sais, mais ça. Oui, par rapport à ce qu'on charge puis ce qu'on demande, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de gêne. Parce que de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais si tu me permets, tu voulais compléter ton idée, t'as pas le temps de compléter.
Quand tu parles de dépenser, justement, non, pas des, on veut, c'est pas souhaitable qu'ils dépensent pour dépenser.
Ben non.
Mais ce qui est souhaitable et qui n'est pas le cas en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas réussi à rendre dans ces dernières années Montréal comme une destination attrayante pour les joueurs autonomes. Alors, de faire en sorte finalement que la foi que tu veux dépenser sur un joueur, ben que tu puisses être capable de le faire. Parce que c'est vrai, là, je veux dire, le 1er juillet, c'est rempli d'erreurs, là, c'est rempli de contrats que les DG regrettent. Puis on le sait très bien à Montréal avec Carl Alsner. On est pris avec un de ces exemples-là. Mais la foi que tu veux un joueur, que ce soit des dernières années, là, que ça a été John Tavares ou retenir Radulov, là, je sais que c'est un dossier nébuleux, ou d'aller chercher, Bergevin s'était intéressé à Jake Gardiner, il voulait pas venir. Je dis pas que c'est la solution parfaite, mais quand tu veux un joueur, quand tu veux dépenser ton argent, que tu es prêt à dépenser ton argent, ben il faut que tu fasses en sorte que ton équipe soit accueillante.
Mais là, tu parles de faut que ton équipe soit accueillante, là, mais on fait-tu la liste des joueurs autonomes d'envergure qui sont venus jouer ici dans les 25 dernières années?
Ben, il n'y en a pas.
Puis depuis le plafond salarial, ils ne viennent pas ici, Guillaume. Honnêtement,
il
n'y
en a pas eu.
Ils ne viennent pas. Mais c'est obligé de prendre des guests sur des Carl Arsenault de ce monde ou sur des gars qui sont.
C'est justement la job.
Fin de carrière. Alors
que. D'administration.
Oui, c'est la job d'administration. La job d'administration pour une équipe canadienne qui n'a pas gagné une coupe cette année depuis 1993, là, c'est de repêcher comme du monde. Parce qu'honnêtement, je regarde ça d'un océan à l'autre, à part l'exception Tavares qui revient vivre un rêve d'enfance bien payé. Les gars ne reviennent pas. Fait que la planche de salut pour les équipes canadiennes, c'est de bien repêcher, de bien développer. Parce que les Rangers, c'est vrai qu'ils l'ont joué franc jeu. J'aime leur approche d'écrire la lettre, mais il y a une chose, une réalité qui est différente entre celle de New York et de Montréal, c'est que le marché de New York est attrayant pour les joueurs autonomes. Panarin a décidé d'aller jouer là. Là, si Panarin vient jouer à Montréal, il va peut-être en attirer une coupe. À une autre échelle, nous autres, on a misé sur le fait que Gomez va venir jouer, puis là, Giunta allait venir. Tu sais, ils ont rebâti un noyau autour de ça. C'est de même que ça marche. Les gars veulent jouer ensemble. On se souvient de Carry Up, c'est l'année. Puis juste pour revenir sur ton point, qu'est-ce que tu voulais dire? Je reviendrai.
Écoute, moi, personnellement, je pense que le Canadien devrait faire quasiment une sortie publique ou expliquer au public que durant l'été, c'est pas là que ça va se passer pour le Canadien. On vient de le mentionner, là.
Mais c'est là que ça se passe.
Oui, sauf que les joueurs ne viennent pas. Je pense que le Canadien devrait se concentrer beaucoup plus au niveau des transactions parce que quand tu vas chercher un joueur qui est sous contrat ailleurs, puis qui a un contrat, disons, pour encore 3 ans, qui a un contrat qui est signé en bonne et due forme à Nashville, ben il est obligé de venir, à moins d'avoir une clause de non-échange. Mais il est obligé de venir.
Comme Petrie dans le temps.
Et tu ramasses le contrat raisonnable qui vient avec. Parce qu'à chaque fois que tu te lances dans des
clauses
dépenses
de non-échange, Jérémy, là.
C'est sûr, il y en a qui ont des clauses de non-échange.
C'est ça. Les gros joueurs, ceux qui ont des moyens de négocier ont des clauses de non-échange.
Oui, mais ils n'en ont pas tous. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en ont. Mais l'été, tu es obligé de surpayer. La majorité des gars ne veulent pas venir.
C'est le repêchage, les gars.
Tu es obligé de les surpayer. Donc, concentre-toi sur le marché des transactions et le repêchage. Et vas-y avec cela, cible des joueurs qui, dans la Ligue nationale, pourraient devenir disponibles, qui ont des contrats raisonnables, fais-les venir, ils ont pas le choix
parce
de venir.
Parce que si tu repêches comme du monde, là, tu vas avoir des munitions à dépenser pour faire des échanges. C'est Mais certain. Si tu repêches comme de la chenoute, ben, en plus de souffrir de ton club, les échanges que tu vas faire, c'est pour patcher des trous parce que le toit, il coule. Fait que tu continues de creuser, t'entretiens la fosse, tu sais, pour
pouvoir... Mais je te trouve quand même sévère avec, avec Timmins. Moi, je suis plus dans le camp de ceux qui ont l'habitude de le défendre. Parce que
pour moi, c'est une joke,
les résultats du repêchage sont pas tous non plus le résultat du travail de Timmins. On parle de Rouen Sergachev
en plus, un gars qui a pas assez de respect pour son organisation pour être obligé d'envoyer en dessous de l'autobus quelqu'un qui aurait forcé à prendre une décision. Hey, si t'avais des couilles, là, t'avais rien qu'à mettre ta tête sur la bûche, c'est si bon que ça, là. Les 28 autres, 30 autres équipes, ils te l'auraient donné une job, t'es bon, t'étais le meilleur. Mais mets là ta tête sur la bûche pour dire non, je le ferai pas ce move-là parce que ce joueur-là, c'est lui qu'il faut qu'on repêche, même si on est à Montréal. Il a jamais eu ce courage-là.
Pis ça, justement,
il c'est ça son point de défense, là, parce qu'il y en a d'autres points sur lesquels on peut.
Ben, à mon avis, le cas de Louis Leblanc dont tu fais partie, ben, c'est ça, c'est que l'organisation a voulu prendre une orientation. Je suis pas sûr que c'était la sienne. On peut dire la même chose en 2013 avec le choix de McCarron, que je pense que l'organisation avait décidé de se grossir. Ouais. Est-ce que c'est là que Timmins voulait aller? Je suis pas sûr, j'ai l'impression.
Timmins, il voulait pas se grossir, puis lui, il a pas participé à cette décision-là.
Moi, je parle plus de
la même
ligne
de pensée. Ben non, mais c'est la même affaire.
Oui.
Il était là. Je veux dire, Timmins, ils repêchent selon leur complexe. Ils ont tellement pas de conviction dans ce qu'ils voient, là, qu'ils sont obligés de se camper derrière une position, de dire, faut se grossir. OK, McCarron, etc. Ah, ça prend un francophone, on n'en a pas. Louis Leblanc. Ça prend un centre. Ah, Kotkaniemi. Ça prend un centre. Là. Tout d'un coup, ça prend. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on cherche. Là, ça prend un centre, là. Fait que là, on sait pas qui. Hey, d'un coup, non, ça prend un centre. Fait que là, le marché est convaincu que ça prend un centre. Fait que là, on a un. On espère qu'il va être bon. Puis j'ai pas démissionné encore.
Moi, je suis un peu
mais
en
si
deux,
t'es
là.
Sûr de toi. Là, ils ont fait différent cette année. Caulfield, on peut dire que là, ils ont dit ah, là, on prend le talent. C'est la première fois, là, parce qu'il y aurait. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui les a guidés vers ça. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que la stratégie d'y aller par position...
Oui, parce que l'année passée, probablement que Tkachuk aurait peut-être été un meilleur choix. Mais bon, écoute, on est allé avec la position où on avait un besoin. Mais moi, je suis un peu entre vous deux. Je trouve qu'il y a de la responsabilité, oui, à Timmins, mais il y a aussi de la responsabilité au fait que l'organisation n'entoure pas suffisamment bien ses joueurs et ne leur donne pas le temps nécessaire de se développer dans un environnement. Ça fait longtemps que...
Un exemple, là?
Ben,
parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait aux Canadiens? Les gens n'avaient pas de chance. On les met tous dans la Ligue nationale. Là, c'est quoi? Là, on les a
non,
même
mais à un moment donné,
là, ils vont
j'appelle. Je pense, écoute, je recule là, il y a 10, 12 ans. J'appelle David Fisher, premier choix du Canadien de Montréal. Je l'appelle à l'école. Comment ça va? Puis, ah, là, ça va pas bien. Je joue pas bien. Puis tout ça. Puis ma mère est malade. Puis j'ai pas la tête au hockey. Puis. Là, j'entends ça. Écoute, le gars, là, il semblait m'annoncer là, quasiment là, qu'il allait prendre sa retraite.
Ouais, ouais.
Fait que moi, j'écris le texte, puis je me dis, tabarouette, j'espère qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui va lire ça, puis qui va dire, il faut qu'on envoie quelqu'un là-bas parler à ce gars-là, tu sais, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On peut-tu le rester? C'est un premier choix de repêchage qui, finalement, n'a jamais joué dans la Ligue nationale, mais... Tu sais, je vais prendre des... Pour
mais
moi,
c'est un choix de 2006, tu sais.
Mais c'est n'importe quoi.
Disons, mais remarque que s'il s'était pas trompé, peut-être que Krejci, c'était avant 2006. Tu sais, s'il avait repêché bien dans ces années-là, qui étaient aussi des années de Timmins, Patrice Bergeron, Brett Lernout ou Braden Point, vous autres, je sais pas. Puis non, mais on va en trouver partout des exemples. Tu sais, c'est puis je veux pas... C'est facile après, mais je veux dire, c'est comme, c'est une tendance. Moi, je peux pas voir qu'est-ce que, hey, tu penses-tu que le toit va s'effondrer si on change de directeur du recrutement? Vous autres, y a-tu quelqu'un qui pense que le building va shaker, là?
Non,
pas
mais
vrai,
moi,
là.
Moi, honnêtement, si il était congédié, ça changerait rien dans ma vie.
Ils vont tous couler ensemble parce qu'ils se tiennent. Fait que quand ils vont couler ensemble. C'est ça, leur philosophie.
Et pourtant, Timmins était là quand Bergevin est arrivé. Donc, je sais pas c'était quoi leur relation avant.
Ben, ils se croisaient dans les arénas, ils faisaient la même chose.
Ouais, c'est ça. C'est le petit milieu des scouts, puis peut-être qu'ils se croisaient au gym de l'hôtel aussi.
Oui,
c'est
au gym. D'autres informations? Non, mais peu importe. Au gym, c'est
le club des gros bras.
Ça l'a dit, là. Tu sais, c'est sûr que j'étais un peu frustré, vous l'entendez dans mon ton de voix, parce que, tu sais, c'est le jour de la marmotte. Mais en même temps, je vous ai demandé qu'est-ce que vous feriez, je vous ai pas dit ce que je ferais, puis je vais rejoindre une des idées que tu as dites. Tu sais, pour désamorcer, c'est sûr qu'il y a bien des stratégies. Il y en a qui pourraient dire, puis d'ailleurs, ces médias sociaux, congédie Julien, congédie ça. Je le sens pas là, congédie.
Non, je pense
honnêtement, je suis pas sûr que ni un ni l'autre va se rendre au moment où l'équipe va être très compétitif. Je serais très étonné, mais on verra, tant mieux. Mais par contre, je reviens à la communication. Dans certains échanges avec des amis, collègues, un matin, c'est ça que je disais. Et à un moment donné, faute avouée est à moitié pardonnée. Mm-hmm. Et je pense que peut-être qu'on verra, peut-être s'ils veulent attendre plus longtemps, peut-être laisser jouer quelques matchs. En fin de semaine prochaine, ils n'ont pas de match. Lundi matin, me semble, le moment bien ciblé pour faire une intervention publique au besoin. Si le Canadien ne gagne pas de match d'ici là, moi, je ciblerai lundi prochain. T'espères qu'il gagne des matchs, puis t'as pas besoin de faire les états généraux. Puis là, ben, à ce moment-là, tu recommences. Parce que quand l'espoir n'est plus là, c'est là que ça fait mal. Là, d'une semaine de même, après 8 défaites de suite, il n'y a pas beaucoup d'espoir.
Oui.
Attendons les résultats de la semaine. Mais moi, mon plan B que je prépare avec ma direction, c'est d'intervenir. C'est pas Paul Wilson qui va faire ça. Je veux dire, lui, il peut aider à le préparer. C'est soit Jeff Molson ou Marc Bergevin ou les deux, puis dire, écoutez, on demande aux partisans, on demande le soutien des partisans. On est dans un processus. On croit encore que notre avenir est meilleur. On va continuer de se battre jusqu'à la fin de l'année. Dans le cas où ils perdent cette semaine, là, je parle mm-hmm. de la séquence de fêtes. C'est comme ça. C'est gérer les attentes, gérer les communications. Puis eux autres, en dedans, ben, continuez de reprendre une cassette qui vous voit bien, nous contre le reste du monde, puis personne ne croise en nous. C'est des bonnes
recettes. Il y a deux messages à livrer.
Moi,
c'est
ça serait ça, mon plan. Puis j'essaie d'aider mon coach à la glace de manière que je peux sans sacrifier mon avenir.
Si tu fais ça, faut que tu en redonnes aux partisans, par exemple. Alors, par exemple, t'arrêtes d'augmenter le prix des billets, t'arrêtes de charger plus cher pour les bouts de rangée, t'arrêtes, tu sais, je veux dire...
Dans la même annonce, lundi?
Ben, disons conséquemment, là, t'es pas obligé de l'annoncer cette journée-là, mais faut que tu sois conséquent.
Si tu demandes,
donnez-nous quelque chose, soyez patient avec nous, mais de l'autre côté, faut que t'en donnes. Donc, ça se joue là-dessus. Je veux dire, ta relation avec les partisans, c'est là-dessus.
Ça va pas calmer tout le monde de dire ça.
Ça va pas calmer tout le monde, mais je veux dire, au moins, t'arrêtes de rire des gens en augmentant.
Ça a l'air plus direct, franc, puis tu dis que tu continues d'espérer. Les Blues de Saint-Louis,
j'ai de la misère avec le fait que dans la Ligue nationale, présentement, une équipe part, là, puis ils perdent 8 matchs en ligne, ils perdent leur meilleur joueur,
séquences,
puis il se passe à rien. Ils se passent.
Ils sont pognés, Jérémy.
Rien.
Le système les paralyse.
Je vais reculer une couple d'années. Souvenez-vous quand le Canadien est allé chercher Sergei Gonchar. C'était au mois de novembre. Okay? Le Canadien venait de perdre 4 games sur 5, avait donné 19 buts. Gonchar gagnait 5 millions à ce temps-là, puis on avait besoin de quelqu'un pour donner un coup de main en défensive. Ils sont allés chercher au mois de novembre Sergei Gonchar. Il a joué 45 games. OK, après ça, Petrie est arrivé, fait qu'il a perdu un petit peu de temps de glace puis tout ça. Mais il y avait bouché le trou entre le moment où on avait besoin, puis Petrie peut-être pas disponible à ce moment-là, jusqu'à, mettons, novembre jusqu'à février. Puis après ça, Petrie est arrivé, puis il nous a donné un coup de main. Le Canadien a fait les séries cette année-là, fait 2 rondes, Ottawa et Tampa. Ensuite de ça, ben Gonchar est parti, ça nous avait coûté, je pense, Travis Moen. Tu sais, mais tu viens donner quelque chose. C'est un quelque chose.
Mais le Canadien de cette époque-là était quand même une équipe. Rappelle-toi aussi qu'à cette époque-là, le Canadien, le printemps précédent, s'était rendu en finale de l'Est. Le Canadien était ailleurs dans sa trajectoire. Puis je pense que le Canadien de cette époque-là pouvait se dire, on est à un Sergei Gonchar de se replacer, puis de pouvoir se rendre. Puis là, ils sont rendus au deuxième tour des séries.
Ils savaient que Gonchar, ce serait pas le gars qui changerait toute la game. Mais
non, mais si quand t'as une équipe mature...
Présentement, le Canadien a 5,7 millions de dollars de disponibles masse. Si, mettons, tu procèdes à une transaction aujourd'hui, puis à date limite, tu te croises les bras puis tu dis, écoutez, monsieur, madame...
Quel objectif, Jérémy? Tu reconstruis. Tu sais, tu reconstruis, t'en as pas...
Là, faut que tu le dises, c'est ça l'affaire.
Mais non, Jérémy... Ils le disent sans le dire, là. Je veux dire, Jeff Molson a fait front du Sportsnet dans 3-8 ans. Tu sais, reset. Avant la saison, okay. Puis tu sais, le monde s'en soit moqué un peu. Ils le disent pas de façon franche, mais quand tu fais jouer autant de recrues dans ton alignement que t'as pas de renfort externe, je veux dire,
les transactions, c'est que t'es pas. Du côté gauche de la défense, avant même la blessure à Victor Mété, là, on dit 2 semaines minimum. On verra ça va être combien de temps, mais avant même sa blessure, je pense qu'il avait besoin d'un défenseur à gauche. Là, t'en as besoin de 2 avec Mété qui n'est pas là. Ben Sherrod n'a pas joué 40
minutes. De Mété,
ils ont dit 2 semaines.
2 semaines.
Ils ont dit 2 semaines minimum.
Et ce matin, parce que là, on n'a pas parlé depuis le début du podcast. J'ai parlé que Niemi avait déjà gagné des matchs à cette date-ci l'an passé. Mm-hmm. Il avait même permis à Price de prendre un break pour retrouver ses moyens. Mais là, Kincaid soumis au ballottage. Ouais. Et là, au moment où vous allez écouter le podcast, on connaîtra l'identité du gardien rappelé. Toi, Guillaume, tu privilégies Lindgren. Tout indique que ça va être Lindgren. Primo a eu une séquence moins heureuse ben, c'est ça, ces derniers matchs.
Primo a donné 13 ou 14 buts dans ses trois derniers matchs. De toute façon, Primo doit continuer à se développer dans la Ligue américaine, doit apprendre à dominer dans la Ligue américaine. C'est toute une transition de passer de la NCAA au rang professionnel, aussi bien de vivre cette transition-là dans la Ligue américaine, surtout dans la façon dont vont les choses à Montréal. Et puis, ben, de toute façon, Price va continuer à jouer sa part de match.
Mais Price a dit ce matin qu'il était sous le choc de cette décision-là. Puis il a dit, je trouvais pas qu'il jouait si mal que ça. Fait, puis quand il a posé la question...
Ce sont les mots qu'il a utilisés?
Oui, exactement.
C'est kind of shocking when you have a teammate that's, you know, has a tough time. And, you know, I thought he played pretty well the last couple of starts. I just didn't see the results. So, you know, right now we need results. It's always definitely a shake-up when you have a lineup change.
Donc, moi, je pense que c'est un move qu'on a essayé de faire pour essayer d'aller chercher une réaction.
Oui, oui.
Sachant que Kincaid va pas être réclamé au balotage, on va peut-être l'envoyer en bas, Lindgren va monter pendant une semaine, puis peut-être que l'autre, il va retourner, puis ils vont se réchanger de place dans une semaine, mais on essaye d'aller chercher une réaction.
Ben, après moi, c'est ça. Dans le but d'améliorer la situation, il faut provoquer quelque chose. Et puis, sais-tu quoi? Moi, je sais pas si c'est ça l'intention, mais n'importe quoi qui peut aussi stimuler le niveau de compétition de Carey Price, là, je pense qu'il y en a besoin. En tout cas, j'ose croire qu'avec toute la confiance qu'il habite de toutes ces années où il y a eu du succès, qui est capable de réagir. Puis là, c'est pas l'heure de l'entrée en scène de Primo, mais si Primo ou Lindgren partaient sur une séquence positive qui viennent challenger un peu, ça serait bon pour l'équipe, ça serait bon pour Price.
Ça serait bon, mais je pense que c'est irréaliste.
Canadien,
je pense que
c'est
ça.
Mais c'est pas irréaliste. Je veux dire, c'est pas irréaliste que Lindgren arrive puis garde un match.
Pour un match, Lindgren, j'ai pas de problème avec lui. Puis Lindgren, c'est un petit côté gamer.
8 défaites et 2 défaites en prolongation en Ligue nationale pour Lindgren.
Dans des contextes particuliers, il est capable de sortir et de donner la victoire. Puis là, regarde, je donne un exemple, mais vendredi, le Canadien va être à New York, ça va être contre Ryan Lindgren, le frère à Charlie Lindgren. Ryan, il est défenseur pour les Rangers.
Aye, aye.
C'est le genre, tu sais, t'es au MSG. Charlie Lindgren, c'est un Américain, je pense, que joue au Madison Square Garden, c'est quand même spécial. Ce genre de contexte-là, pour un match, pour Lindgren peut te sortir une victoire de 4-2, là. C'est fort réaliste. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est pas. Je voudrais pas envoyer Charlie Lindgren aux deux semaines jouer un match parce qu'il serait rattrapé. Ouais, assez rapidement. Mais pour une petite étincelle ici et là, ça peut aller. Mais ça reste que...
Mais l'idée de l'embauche d'un gardien auxiliaire qui n'a pas brûlé grand-chose l'an passé, à la base, c'était pas une bonne idée.
Ben, exact.
Tu peux plus reposer juste un gardien de but. Puis on a continué d'adopter cette mentalité-là. Puis là, ben, ça les rattrape aujourd'hui.
Il est particulier, Kincaid, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça dans les résultats comme tel. Un peu malchanceux. Seulement une victoire depuis le début de l'année. Mais moi aussi, il y a de l'air croche.
Mais ça, je pense, c'est le résultat aussi qu'on voit Carey Price,
tellement
au quotidien,
souvent.
Qui est un des gardiens les plus square, si tu peux me permettre, là, de la ligue, quand tu vas bien, là, en particulier. Donc là, c'est sûr qu'après ça, tous les autres gardiens ont l'air croche.
Mais les gars, si Carey, puis là, encore là, tu sais, Kincaid, on a tellement un court échantillon qu'on sait même pas qu'est-ce qu'il peut donner à son meilleur, mais si Carey Price peut voir sa confiance être ébranlée par le fait de jouer devant une équipe qui a aucun souci défensif ou qui donne des surnoms en quantité industrielle, c'est logique que le gars qui est moins bon que lui soit aussi ébranlé. Mm-hmm. Puis il avait l'air petit dans son filet. Je pense que ça a été dit pendant le reportage à la télé également. Puis effectivement, je trouvais pas qu'il en couvrait large. Mais tu sais, le plan de communication, les gars, tu sais, je pense que tu amenais ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais faudrait pas se limiter à ça. Tu sais, faut que tu annonces des décisions. T'as beau couper le prix de la bière à moitié. À un moment donné, faut que tu prennes des décisions qui concernent ce qui va se passer sur la glace, qui annoncent comment tu vas récupérer la formation de tes joueurs ou comment tu vas recréer une unité. Puis moi, un des éléments que je dis pas que je ferais ça, parce que j'aimerais ça soumettre cette idée-là à mes gars de hockey pour avoir leur opinion, parce qu'il n'y a pas personne qui a la science infuse. Mais il y en a qui disent, je disais, ces médias sociaux, bon, sortez-moi Will, puis tous les gars qui viennent patcher les trous, puis là, montez Payling, puis là, c'est assez, on veut voir les gens. Moi, je serais tenté de soumettre le contrat. Moi, je dirais Suzuki,
ouais.
Fleury, Kotkaniemi à Laval. Allez jouer à Laval, amène-moi Belzile, positionne-toi pour la...
Si tu juges que la saison est à l'eau...
À Coupe Calder.
Ben c'est ça, exactement. Si tu juges que la saison est à l'eau en haut, ben oui. Suzuki, je sais pas, parce qu'honnêtement, Suzuki montre quand même qu'il suit très, très bien le rythme. J'ai moins de problèmes. Mais est-ce que Fleury pourrait aller jouer à la place 22 minutes à Laval? Est-ce que...
C'est que Suzuki joue pas bien. C'est juste non. De dire...
Non, va créer quelque chose.
C'est ça.
Ton noyau du futur, là, au lieu de faire jouer des miettes, faisant un noyau solide, confiant, que les gars se reconnaissent. Mitch Marner a joué combien de matchs en Ligue américaine? Suzuki n'a pas besoin de lui. Zéro. Nous autres, on est. Hey, on, hey, il est bon en tabarouette. Il est meilleur que Marner, Nick Suzuki.
Non,
je suis
d'accord avec toi. Ça reste que tant qu'il ne monte pas de
signe. Je dis pas qu'il n'est pas bon, Guillaume. Là.
Non, mais tu sais,
comme Kotkaniemi, j'aime la progression.
Ben, c'est ça, exact. Exact. Mais disons que tant que tu as de la progression, ça va.
Puis, sais-tu quoi? Tu as peut-être une couple de gars en bas à Laval qui sont des vétérans qui vont peut-être être justement capables d'appliquer un peu mieux en ayant moins de talent, ce que Claude Julien disait la semaine dernière.
Une équipe
à savoir,
défensive,
c'est
ben
ça,
oui.
Ce qu'on
comme
vous
les Islanders, ben, ils ont une couple de bons jeunes.
T'as peut-être des gars à Laval qui sont capables de comprendre ça, ce que le coach demande, puis ils vont être capables de le faire dans leurs limitations, puis tu vas peut-être avoir des résultats plus positifs. Je sais pas.
Des fois, on parle trop vite. Marner n'a pas joué.
Il a pas joué, c'est ça que j'allais.
Vous auriez pu me reprendre sur le fly, j'étais convaincu, mais Kapanen a joué, Nylander a joué. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans la Ligue américaine. Marner, c'est vraiment un talent hors norme. Il a joué aucun match dans la Ligue américaine. Alors, Mea coule pas, Mea Maxima coule pas, mais reste que il a quand même 61 points sa première année dans la Ligue nationale.
Suzuki n'aura pas 61 points, mais c'est ça. Disons que c'est un joueur qui, jusqu'à date, montre une belle stabilité dans son jeu, pas l'air dépassé par
ça
les événements.
Ça va une saison de 40 points. Je l'aime. Oui. Moi, c'est pas une punition, c'est de créer mon club de l'avenir. Puis je dis ça, comme je l'ai dit, je dis pas que je déciderais ça. J'aimerais ça que mes gars d'hockey réfléchissent à ça, puis qu'ils prennent une décision, la meilleure pour l'équipe.
Si t'as un joueur dans ce groupe de jeunes-là qui est déjà capable de suivre le rythme dans la Ligue nationale, puis de tenir son bout, puis de produire comme il faut, c'est correct aussi de le garder dans la Ligue nationale, parce que quand il va arriver à l'an prochain à vouloir passer au prochain niveau, ben lui, il va en avoir une saison complète derrière la cravate. Tant mieux si tes autres ont fait de quoi de bien à Laval, tant mieux s'ils ont été loin, qu'ils ont gagné une Coupe Calder ou qu'ils sont approchés, tant mieux. Mais si t'as un de ces jeunes-là qui a de l'expérience de Ligue nationale, une saison complète, qui a vu c'était quoi le voyage de toute la saison, ben, je pense que ça va être plus avancé, mais il faut vraiment qu'il te montre qu'il suit toute la saison. Puis Kotkaniemi, oui, une saison recrue correcte, mais on s'entend qu'il a commencé à casser après une soixantaine de matchs.
Ouais.
Alors, c'est ça, je pense qu'il faut surveiller aussi avec Suzuki, mais jusqu'ici, les indicateurs me semblent quand même positifs.
Là. Le joueur le plus intriguant à épier attentivement, je trouve, cette année, c'est Kotkaniemi, particulièrement parce que tu sais, il y a une partie de l'avenir du Canadien qui joue sur le succès de ce joueur-là.
Oui.
Et on veut tous voir des signes positifs. Et clairement, dans les choses, si je peux trouver des choses positives à dire, même si peut-être que... Je sais pas si ça y ferait du bien de les jouer en bas, mais clairement, il est plus fort. Tu sais, il est plus fort. On le voit appliquer des mises en échec qui semblent laisser des traces envers certains gars. Je sens une certaine hangue dans l'échec avant, un désir de lui faire de quoi. Tu sais, le caractère, c'est important dans la réussite d'un joueur. Puis ce que je vois de lui dans les épisodes qu'on a sur la glace, je trouve pas qu'il se démarque bien sur le jeu de puissance puis qu'il aide le jeu de puissance, mais je parle dans ses traits de caractère individuel. Je vois un gars qui a du caractère. Est-ce qui est à la bonne place pour continuer de développer. Fait que ça, parce que ça prend du caractère pour percer puis devenir bon dans la ligue, même si tu as du talent. Fait que je suis content de voir qu'il y en a. Parce qu'il y a du talent, mais je suis content de voir qu'il semble avoir du caractère.
As-tu entendu les commentaires de Plekanec avec notre collègue Chris Nyland?
Je sais pas, mais ça te faisait rire avant que t'en parles.
Ben, pose la question à Plekanec. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec Kotkaniemi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Puis là, il a dit... Ferme tes réseaux sociaux, parle pas trop aux journalistes, puis concentre-toi à jouer au hockey. Fait que, tu sais, non, mais écoute, sans blague, moi, je suis pas inquiet pour ce jeune-là. Je pense que dans 2, 3, 4 ans, on va se souvenir de ce passage et on va dire, te souviens-tu, à un moment donné, on a douté de lui, puis tout ça. Mais je pense qu'il va. Mais ça prend du temps. Ça va prendre du temps.
Oui, c'est sûr. Mais ça c'était clair dès le jour du repêchage. De toute façon, c'était clair que Brady Tkachuk, qui a été repêché juste après lui, était beaucoup plus proche d'être un produit fini que ne l'est Kotkaniemi. Ça, on le sait.
C'est qu'est-ce que l'arrivée de ces jeunes-là, leur éclosion et le moment qu'ils vont arriver puis vont être capables vraiment de t'aider à gagner des matchs et peut-être espérer éventuellement gagner une coupe où seront rendus tes deux.
Tes vétérans, c'est ça, exact.
Aimez-vous Pastrnak? On le voit souvent, depuis
deux années. Depuis que j'allais dans mon pot, je l'aime beaucoup.
Mais on est près de la fin, là, je vais pas étirer ça pour étirer ça. Mais
cette première ligne-là des Bruins, c'est incroyable.
Puis ils ont même pas Bergeron, là. En plus.
Le Canadien, là, dans le fond, le plan, là, tu sais, je vous ai parlé d'un plan pour lundi, mais leur plan, c'est de survivre jusqu'au repêchage. Parce que le repêchage, là, je parle de communication, de pas faire en sorte que ça devienne moribond, trop cynique, trop pessimiste, trop noir dans le marché, tu sais, d'avoir une équipe qui se bat, qui incarne l'espoir, c'est ça qu'on voulait voir cette année, on l'a vu l'an passé, tu veux pas voir une régression
dans
ce qui s'en va vers l'avenir, tu sais, parce que là, eux autres, ils ont quand même une autre bouée intéressante, ils ont beaucoup de choix de disponibles, à moins qu'ils en échangent, là, prochainement, et le repêchage est à Montréal. Fait qu'il faut pas penser qu'une organisation comme le Canadien va pas tabler là-dessus dans un marché où on mord fort à l'espoir, là. Et ils vont se servir de ça. Fait que l'idée, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'ils sont obligés de sacrifier Claude Julien juste pour calmer la plèbe, là, ou une coupe de déchaînés qui veulent plaisir sur un piton, tout ça. Fait que s'ils se tiennent entre eux autres, puis qu'ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, puis de développer, il y a deux affaires. Calme le jeu cette année, bat-toi sur la glace, le draft s'en vient, puis ça va être l'autre opération de relance. Mais tout ce détour-là pour vous dire que Caulfield est un autre élément d'espoir, mais je vais prendre Pastrnak, le meilleur franc-tireur de la Ligue, pour vous indiquer en termes de buts sa progression avant de penser que Caulfield va tout régler l'an 1. Et pour vous dire que le Canadien va être bon dans quelques années d'ici, ben, pas l'an prochain.
Ceux qui pensent ça, là, ben, ceux qui pensent que les gars vont arriver la première année puis ils vont tout changer, je veux dire.
Pastrnak, il est repêché en 2014. C'est allé vite là, pour lui. Là. Je parle d'un des meilleurs. Là. Mm-hmm. 46 matchs en 2014-2015, il en a marqué 10. Il en a marqué 15 en 51 matchs en 2015-2016. Il en a marqué 34 en 75 c'est matchs en 2016-2017. Il mesure 6 pieds. Il pèse 195 livres. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis bonne chance, Caulfield, il va être tout un an. Il va être un atout assez intéressant sur le
ben
jeu.
C'est ça, exact. Mais la première année,
il scorera pas 50 buts.
Une recrue qui marque 20, qui en marque 20 à sa première année, c'est très bon. Donc, on s'entend qu'il faut limiter les attentes. Ben, à part si tu t'appelles Austin Matthews. Sinon, donc, c'est pour ça, là, je disais Cole Caulfield, là, oui, s'il vient l'an prochain, mais ça va être un marqueur de 20 buts l'an prochain si ça va bien.
Tu sais, justement, on va parler des grandeurs de joueurs, mais je pense que c'est la semaine dernière, là, qu'on faisait remarquer dans l'alignement des Bruins, il y avait un joueur qui faisait pas 6 pieds, c'est Brad Marchand. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un joueur exceptionnel. Ouais. Puis je pense que chez le Canadien, il y en avait entre 10 et 12 qui faisaient pas 6 pieds. Donc, je sais pas si ça a rapport un avec l'autre, mais c'est sûr que c'était capable de jumeler le talent avec la grosseur physique, ouais, mais c'est pas évident.
Mais ça, là-dessus, t'as Kotkaniemi, puis Paling quand même qui s'en viennent avec de bons gabarits. Là, ça, pour la relève, oui, le Caulfield des petits, mais ces deux-là, Kotkaniemi, Paling, t'as deux centres avec de bons gabarits quand même qui s'en viennent.
Les Bruins ont trois joueurs en bas de 6 pieds. Brad Marchand, 5 et 9. Torrey Krug, 5 et 9. Et Connor Clifton, 5 et 11. Et oui, tu l'as dit, cherche un lui, 5 et 9 également. Ils ont trois gars de 5 et 9, mais ils sont bien entourés, par exemple. Ouais. Aussi, là, ouais. Alors, les gars, avez-vous une bonne parole pour compléter l'homélie ou l'évangile? L'évangile. Trouves-tu qu'on s'est défoulé? Je sais pas.
Ben, toi, tu t'es défoulé sur Trevor Timmons, en tout cas.
Hey, honnêtement, ça fait quand même une couple d'années que j'ai mis ça, le dossier Timmons, au tiroir. Mais là, quand on traverse une séquence de 8 défaites consécutives.
On mettra en dessous dans ma chaîne.
T'es obligé de ramener à l'avant-scène que tu payes encore pour tes choix de repêchage. Puis je le disais l'an passé, on n'a pas fini de payer pour les ratés du repêchage. Mais bref, en tout cas, j'espère qu'il repêche bien depuis une couple d'années. Puis on ne sait pas encore. On peut pas encore dire à 100% que oui, il a fait les bons choix. Mais. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, les gars. Je sais pas comment conclure ça, cette affaire-là. Là.
Non, mais aidez-moi cette semaine, là, tabarouette. On n'est pas sortis du bois. Du bois.
Je vous demande même pas combien de points sur 6, OK?
C'est bon.
Des points de suture à notre orgueil. Salut, Guillaume.
Salut, Mario.
Bonne semaine.
Bye-bye.
Salut Jérémy et Simon-Olivier Lorange qui, j'espère que t'es parti de l'aéroport de Boston, mon cher, et on te donne rendez-vous au prochain podcast. Ciao, ciao tout le monde. C'était Sortie de zone.